Le burn-out des aidants. Vous savez que la maladie d'Alzheimer, on l'a bien compris, elle touche pas seulement le malade, mais aussi tous ses proches, avec de réels risques sur les proches et des conseils qu'il faut savoir entendre. Docteur Olivier de la Doucette, vous êtes psychiatre, gériatre, beaucoup en contact avec les familles des malades d'Alzheimer et avec leurs aidants professionnels et familiaux. Qu'est-ce qu'il doit être dit aujourd'hui sur ce sujet ?
Alors, on a beaucoup de choses à dire et je pense que bon nombre d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui vivez probablement au quotidien ce qui va être énoncé. Avant toute chose, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée ce matin. Comme l'a dit Agnès, je suis un clinicien, donc je soigne des patients et leurs familles atteints de la maladie d'Alzheimer depuis une trentaine d'années. Et ce matin, est venue me voir une dame, elle était très anxieuse. Elle m'a expliqué qu'elle était la femme d'un monsieur qui était venu me consulter il y a 8 ans avec son frère jumeau qui avait la maladie d'Alzheimer et qui posait beaucoup de problèmes à domicile. Lui, il allait bien. Le frère jumeau aujourd'hui est dans une institution et en phase terminale de la maladie d'Alzheimer. Et lui, depuis quelques mois, commence à présenter des troubles cognitifs. Il fait un peu n'importe quoi, il se trompe, il oublie, il fait de temps en temps, il dort mal, il est triste, il pleure parfois. Elle n'a pas voulu voir dans un premier temps ce qui se passait, et puis maintenant elle a bien compris qu'en réalité son mari allait prendre le même chemin que son frère jumeau, mais avec à peu près 6 ans de décalage. Donc ça nous dit beaucoup de choses. D'abord sur Alzheimer, on a vu tout à l'heure qu'il y a des facteurs génétiques. Vous voyez, quand on a deux jumeaux qui sont homozygotes, c'est-à-dire qui ont exactement le même bagage génétique, eh bien, ils vont déclencher la maladie avec 6 ou 7 ans de décalage l'un par rapport à l'autre. Ça montre bien qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent. Et puis, cette femme, elle était complètement épuisée, elle n'en pouvait plus, le mari devenait violent, il est dans un déni massif, il ne veut absolument pas entendre parler de troubles, pour des raisons évidentes. Vous savez que dans cette maladie, il y a l'anosognosie, qui est un phénomène neurologique où les gens ne réalisent pas les troubles qui sont les leurs. Et puis, il y a un phénomène plus psychologique, qui est le déni, que nous utilisons tout au long de notre vie. Quand quelque chose nous gêne, on le nie. Avec Alzheimer, on a souvent aussi ce phénomène de déni. Et dans le cas de cet homme, il est évident qu'il veut en aucun cas pouvoir imaginer prendre le même chemin que son frère jumeau. Voilà, tout ça, cette petite introduction pour vous dire que, effectivement, la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une maladie comme les autres. Ce n'est vraiment pas une maladie comme les autres. Je veux dire, on peut être l'aidant d'un malade avec un cancer, avec une maladie auto-immune, un accident de la route. C'est lourd, c'est compliqué. On a des études qui montrent qu'effectivement, le fardeau est là, il est présent. Mais qu'avec Alzheimer, c'est vraiment différent. La donne n'est pas la même, parce que Alzheimer, c'est une maladie qui implique, de la part des aidants, une présence permanente, qui va évoluer inexorablement, qui va entraîner une perte des facultés adaptatives, progressives, et surtout, qui se fait le plus souvent à l'insu du patient. C'est-à-dire que si mon père a un cancer de la prostate et qu'il faut qu'il se repose, je vais dire « Papa, repose-toi, je passerai tout à l'heure. » Et je vais le laisser seul chez lui s'il est tout seul, tandis qu'un malade d'Alzheimer, je ne peux pas lui dire « Repose-toi, on passera ce soir. » Parce qu'entre-temps, il va peut-être ne pas savoir ce qui lui arrive, va se lever seul dans son appartement et se dire « Pourquoi est-ce que je suis seul? Depuis combien de temps suis-je seul ?» Et il pourra à ce moment-là vouloir sortir et se perdre dans le quartier. Donc on voit très bien que c'est vraiment une pathologie à part pour ça et pour beaucoup d'autres choses, et qui donc touche pas simplement le patient, mais tout son entourage. Entourage familial, bien entendu, mais ça peut être aussi amical, ça peut être aussi des soignants professionnels. Alors pour commencer, j'aimerais revenir très rapidement pour brosser un peu le tableau au niveau national sur notre petit sondage dont je vous parlais tout à l'heure en préambule que nous avions fait avec Notre Temps et Agnès, où on a interrogé donc 10 000 personnes représentatives de la population, ce qui nous a permis d'établir des statistiques, avoir une idée un petit peu de ce qui se passait sur le terrain, car aujourd'hui encore, c'est relativement méconnu. On sait qu'il y a en France 5 millions d'aidants familiaux pour Alzheimer. Si vous ajoutez le 1 300 000 malades, vous savez que dans ce pays, vous avez 6 300 000 personnes qui sont impactées au quotidien par Alzheimer, c'est-à-dire 10% de la population. C'est juste considérable. Ensuite, qui sont ces aidants ? Vous voyez, c'est quand même beaucoup la famille, et puis ensuite les professionnels, et après d'autres personnes comme des amis. Et puis 16% personnes, ben c'est, ils n'ont pas d'aidants, ils sont tout seuls et personne ne vient les aider. L'âge de ces aidants familiaux, on voit que la majorité, on a un pic, on va dire, entre 50 et 60 ans. C'est le fameux moment où souvent ce sont des filles, vont faire le grand écart entre des gamins qui n'ont pas encore pénétré dans la vie d'adulte et des parents qui commencent à devenir dépendants. Hein. C'est la génération sandwich qui fait le grand écart et qui essaye péniblement de ressembler à Shiva, mais avec deux bras, ce qui rend la chose assez compliquée, vous vous en doutez bien. Motivation des aidants. C'est aussi intéressant de voir que, bon, pour beaucoup, c'est naturel et par amour, mais pas mal aussi par devoir. Et quand on compare avec, je n'ai pas voulu alourdir les schémas, on a comparé avec d'autres maladies, mais on se rend compte qu'effectivement, dans Alzheimer, il y a plus de gens qui sont aidants par devoir qu'ailleurs, parce que c'est plus dur. Et qu'il faut se motiver, il faut trouver des solutions pour trouver la force en soi pour avancer. Durée hebdomadaire, vous voyez que c'est vraiment long, et on voit que là encore pour Alzheimer, bah, c'est beaucoup plus prenant que pour d'autres pathologies. Hein, la durée, vous voyez, vous avez 28, 16 et 16, 32, 50, 60%, oui évidemment, 60% consacrent plus de 5 à 10 heures par semaine à leurs patients. C'est très très lourd. Impact sur la vie personnelle, là on voit bien, vous voyez, c'est un impact qui est grandissant. Je regarde là parce que je ne vois pas bien. Et on voit très bien que l'impact majeur, c'est un peu petit pour moi, il faudrait que je mette mes lunettes. Non, tu ne peux rien faire. Mais vous voyez bien qu'on va de la relation au moral, et on voit que eh bien, c'est un impact qui est grandissant, et on n'est pas surpris de savoir que 95% des sondés, quelle que soit la pathologie, enfin non, en fait c'est des sondés pour Alzheimer, considèrent que c'est une maladie qui est dévastatrice sur les familles. Ce qui est effectivement le cas. C'est la raison pour laquelle, quand on nous dit Alzheimer, c'est une maladie de vieux, les gens se trompent. Car c'est la maladie d'une famille, et on a vu que les aidants sont principalement des gens qui ont moins de 60 ans. Donc, on est atteint de la maladie d'Alzheimer à 50 ans, quand on a une mère qui en a 80 et qui pose de gros problèmes. On est quelque part aussi un malade d'Alzheimer à ce moment-là. Donc c'est une erreur de s'imaginer que c'est une maladie qui ne touche que les vieux. C'est pas vrai. Ça touche toutes les générations. Toutes les générations. Alors pourquoi est-ce que, on parle de burn-out des aidants ? Alors c'est intéressant parce que burn-out des aidants, c'est un concept qui existe depuis une trentaine d'années et qui, dans un premier temps, s'adressait essentiellement aux aidants, aux professionnels de la santé. C'était pour désigner les gens qui arrivaient au bout du rouleau, tellement épuisés qu'ils étaient la traduction littérale de burn-out, en anglais c'est carbonisé. Je crois que ça décrit tout. Hein. On est carbonisé, on est cramé, diraient les jeunes, hein, par cette maladie qui vous épuise physiquement et psychologiquement. Alors aujourd'hui, le mot burn-out, tout le monde connaît, c'est même un petit peu galvaudé. Dès qu'on a un problème au travail et qu'on est un peu fatigué, on se dit en burn-out. Bon, c'est sûr que les relations professionnelles sont compliquées, mais il est vrai aussi que malheureusement, on voit de plus en plus de gens avec des burn-out en milieu professionnel et peut-être plus encore en France qu'ailleurs, pays où les rapports dans les entreprises sont loin d'être simples. Toujours est-il que dans le cas présent, le burn-out des aidants, donc c'est quelque chose que je connais depuis 30 ans, et puis comme je suis psychiatre et que je vois des jeunes de 20 à 100 ans, quand ils ont entre 20 et 60 ans et qu'ils viennent me voir pour des problèmes professionnels, effectivement, il est question de burn-out. Mais on n'en parle que depuis 10-15 ans réellement, alors que moi, je connaissais ce concept depuis belle lurette avec les aidants. Les aidants de mes patients Alzheimer. Alors pourquoi est-ce qu'on se consume, pourquoi est-ce qu'on se carbonise au contact d'un malade Alzheimer ? Eh bien, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont un peu spécifiques de cette pathologie, qui contribuent donc à entraîner un effondrement physique et psychologique de ces aidants. D'abord, la charge lourde à porter. C'est compliqué, c'est envahissant et c'est douloureux. Envahissant parce que ça demande une présence constante. Petit à petit, on est de plus en plus contraint d'assurer une présence au départ quelques heures, ensuite la journée, ensuite jour et nuit. Et après, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc quand on a les moyens, on peut éventuellement avoir du personnel, mais pour assurer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est 3 à 4 salaires. C'est tout de suite une petite PME, très très compliquée à gérer. Donc forcément, la plupart des aidants contribuent à ce dispositif et ils sont donc omniprésents. Et c'est envahissant parce que on est tout le temps dans l'angoisse. On est tout le temps dans l'angoisse de savoir qu'est-ce que papa, maman, mon épouse va devenir pendant que je ne serai pas là. On est tout le temps dans l'angoisse de savoir est-ce que la garde malade va venir aujourd'hui, est-ce qu'elle ne va pas me faire le coup de l'absence de dernière minute, etc., etc. Donc c'est très envahissant physiquement et psychologiquement. C'est douloureux, et j'ai mis entre parenthèses deuil blanc. Ça, ça pourrait être le sujet d'une conférence, mais je crois que vous comprenez bien, le mot veut tout dire, deuil, parce qu'en fait, on fait le deuil de quelqu'un qu'on a connu, qu'on a aimé, et qui est en train petit à petit de perdre pied. Et blanc, parce qu'il est vivant. En réalité, on fait le deuil de la vie mentale, de la vie sociale, de la vie affective d'un individu qui, lui, est biologiquement présent. Donc c'est pas toujours le cas. Hein. C'est justement une des choses que nous disons aux familles, c'est qu'en réalité, si on cherche, il y a toujours quelque chose qui permet d'interagir avec nos patients, même très avancés dans la maladie. Il y a toujours cette espèce de rapport au niveau des affects que l'on peut construire. Mais il n'en demeure pas moins que on est quand même dans cette logique-là, qui est que j'observe le déclin inexorable d'un proche que j'ai aimé, que j'ai apprécié, que j'ai peut-être même admiré. Alors, une maladie qui évolue, bon, on l'a vu, hein, et de manière inexorable, on n'a toujours pas de traitement, donc on est là en train d'observer, au fond, un déclin programmé, et c'est très très douloureux, on n'a pas d'espoir, on n'a pas de contrôle sur cette maladie, comme on peut l'avoir avec le cancer, par exemple, qui fait des miracles aujourd'hui, pas suffisamment, mais enfin, quand même, dans un grand nombre de cas. Difficulté à déléguer. Alors ça, c'est un vrai sujet dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais qui est assez spécifique d'Alzheimer. où on nous dit beaucoup, oui, on abandonne ses vieux, c'est une société qui est très égoïste, etc. C'est vrai. C'est vrai que, effectivement, sur 100 malades Alzheimer, il y en a toujours une 20% qui donnent le sentiment d'être un peu abandonnés de leur famille. Je dirais qu'il y en a à peu près 50% qui sont pris en charge correctement, sans enthousiasme, mais ça ne se passe pas trop mal. Et il y en a 30% où là, eh bien, il y a un surinvestissement qui est impressionnant, mais qui va un peu trop loin, où le proche en fait trop. Et donc, j'ai très souvent des scénarios où je reçois le couple monsieur, madame, madame est malade, monsieur est là, me parle, mais c'est plutôt l'inverse souvent, c'est monsieur est malade, madame me parle un peu de ce qu'elle fait, etc. Je comprends qu'elle en a un peu marre, que c'est difficile, mais elle fait de son mieux et elle essaie vraiment d'être très présente auprès de son mari. Et puis je reçois en général quelques temps plus tard un coup de fil des enfants qui me disent « Mais est-ce que vous avez proposé à maman de l'aide ?» Ben, j'ai dit « Oui ». Et j'ai compris que c'était compliqué pour elle. Et ils me disent « Oui, on s'arrache les cheveux parce qu'on veut absolument que maman se fasse aider et elle ne veut rien entendre sous prétexte que... elle ne veut pas avoir du monde à la maison, que ça se passe très bien. Nous, on voit qu'elle va dans le mur, mais elle ne veut rien entendre. Donc, c'est assez caractéristique de ces patients et de leurs proches qui ne veulent en aucun cas déléguer. On en parlera peut-être si j'ai quelques secondes pour ça. Tendance à l'isolement, oui, parce qu'on fait un peu le vide autour de soi quand on est avec un malade Alzheimer. Malheureusement, les copains, à part le cercle très proche, la famille nucléaire et les frères et sœurs et les gens très, très liés qui vont vous entourer, les autres se tirent assez vite. Hein, parce que ça fait peur, tout simplement. C'est une maladie qui fait peur. Et voilà, on a assez de soucis comme ça pour s'accaparer les soucis des autres. Donc, très vite, malheureusement, ces couples aidant aidés, eh bien, font un peu le vide autour d'eux, à part donc les plus proches qui acceptent eh bien, de donner un petit coup de main, d'apporter une écoute attentive. Prise au piège, vous avez aussi ça de temps en temps, des épouses, des conjoints, des enfants, des belles filles qui se sentent un peu prises au piège parce qu'ils se rendent bien compte que sans eux, eh bien, le patient n'aurait personne. Ça peut être la deuxième épouse, que les rapports ne sont pas les mêmes, surtout s'il y a des enfants d'un premier lit, qu'en général on règle un peu ses comptes à ce moment-là. Ça peut être aussi de temps en temps aussi des histoires de couples un peu compliquées où l'un des deux n'a pas toujours été gentil avec l'autre et c'est celui qui a subi qui se trouve être l'aidant. Donc il se dit c'est quand même la double peine hein, et je me sens un peu prise au piège. D'accord ? Donc ce sont des choses qui arrivent, il faut savoir l'entendre et nous, en tant que professionnels, pouvoir aider ces personnes à verbaliser en disant « Vous vous rendez compte, il m'a trompé toute ma vie et maintenant il faut que je m'en occupe nuit et jour, c'est vraiment dur. » J'ai ce genre d'histoire, bien entendu. Détérioration de la situation financière aussi, car ça coûte très cher. Hein, ça coûte très cher, je vous ai expliqué tout à l'heure, 3-4 salaires si on veut assurer en respectant les lois du travail, ce que beaucoup ne font pas parce qu'on n'a pas le choix, mais enfin 3-4 salaires, c'est tout de suite 8 à 10 000 euros par mois. Hein, c'est hors de prix. Alors, comment est-ce qu'on repère les signes? Comment est-ce qu'on est alerté par le burn-out? Eh bien, l'état de fatigue, évidemment, intense, chronique, c'est vraiment cardinal. Hein, la personne vous dit « j'en peux plus, je suis complètement épuisé ». Et donc cette fatigue, elle peut être physique, mais elle peut être psychologique. Physique, bon, c'est facile à comprendre. Psychologique, au fond, c'est un état dépressif qui s'installe progressivement où les gens se sentent fatigués dès le matin. Hein, les déprimés, ils sont fatigués le matin, ils vont un petit peu mieux au fur et à mesure que la journée se déroule. Les anxieux, c'est plutôt l'inverse. Ils vont bien le matin et mal le soir. Donc, fatigue aussi, alors cette fatigue psychologique s'accompagne parfois un peu d'irritabilité, hein, d'hypersensibilité. Bon. La fatigue intellectuelle, bien sûr. Après, il y a autre chose qui est intéressant, c'est le détachement, le désinvestissement. La personne, à un moment, n'en peut plus et elle a tendance eh bien, à désinvestir la prise en charge. Et puis, parfois, elle se sent un peu en sentiment d'échec, d'inutilité, une tendance à l'autodépréciation. Les conséquences, on voit bien, c'est la dégradation de la relation, hein, de l'aidant aidé. Et les aidants et les aidés sont totalement solidaires l'un de l'autre. En réalité, si on veut soigner l'un, il faut soigner l'autre. Et si on a un des deux qui va mal, l'autre va suivre. Donc c'est très important de tenir compte de ça, parce que si vous avez un aidant qui s'épuise, il sera plus un aidant de qualité pour son proche, et le proche va en subir les conséquences. Bon, j'allais vous proposer une échelle pour vous montrer un petit peu ce que c'était, une échelle qui montre justement ce qu'on appelle l'inventaire du fardeau. C'est en quelques questions, ça dit un peu tout ce que les gens vivent au quotidien, ça permet de savoir, on calcule les points, si vous répondez à chacune de ces questions, ça m'arrive un peu ou très souvent, vous additionnez les points et vous avez une idée un petit peu eh bien, du niveau d'épuisement dans lequel vous êtes. Donc si certains d'entre vous s'interrogent, allez sur internet, échelle de Zaritch, et faites-la, on peut la faire soi-même, et regardez où vous en êtes. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à un burn-out? Bien, ce qui est important, c'est d'abord et avant tout de reconnaître son état. Parce que beaucoup de gens ne reconnaissent pas, pour plein de raisons, mais ils ne veulent pas admettre leurs limites. Donc il faut arriver déjà à convaincre cette personne d'aller consulter un professionnel. Ça peut être un gériatre, ça peut être un généraliste, ça peut être un psychiatre, un neurologue, peu importe. Mais il faut voir un professionnel qui déjà va reconnaître l'état de fatigue, d'épuisement, vous donnera probablement un traitement antidépresseur et vous donnera des bons conseils. Ensuite, moi, je conseille d'organiser une réunion de famille, ou en tout cas une réunion des aidants qui pourront éventuellement, on va dire, des personnes ressources qui sont autour du couple aidant-aidé principal, quand c'est monsieur, madame, les personnes ressources, on essaie de les réunir. Moi, ça m'arrive régulièrement dans mon cabinet, je fais venir les ressources, souvent les enfants, par exemple, et on fait le point, et on voit comment on peut essayer d'améliorer la situation pour eh bien, alléger le fardeau, hein, le burden, comme disent les anglo-saxons. Ensuite, il faut aussi que l'aidant accepte ses limites. Et là, c'est fait partie de ces 30% qui ne veulent pas voir qu'ils sont en train de dépasser les limites, qui ne sont plus capables d'être des bons aidants. Et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que Alzheimer, c'est un drame, hein, c'est vraiment un drame qui se joue avec un certain nombre d'acteurs et qui se joue au fond à plusieurs niveaux. Il y a un premier degré, on voit très bien, hein, c'est la prise en charge, toutes les difficultés, mais souvent il y a un deuxième degré. Le deuxième degré, c'est les histoires qui relient les uns aux autres depuis très longtemps. Et vous avez souvent dans les familles, par exemple, des conflits entre les aidants, en fait, qui sont des vieilles histoires qu'on règle au quotidien autour de papa ou de maman. Vous en avez aussi qui ne veulent absolument pas décrocher alors qu'ils sont totalement épuisés, en réalité parce qu'ils essaient de régler une histoire ancienne. Ça peut être une fille qui a été à un moment, qui a fait une bêtise dans sa vie, elle a fait un mauvais mariage, elle a divorcé par exemple, elle se sent coupable et elle veut rattraper sa faute en étant eh bien, un soignant idéal. Mais ça se fait au détriment de sa vie de famille, ça se fait au détriment de sa santé, etc. Ou un monsieur qui n'a pas été un excellent mari et qui essaie de se rattraper avec sa femme quand elle est malade. On voit plein d'histoires comme ça, donc c'est très important d'aller un peu au-delà. Essayer de comprendre, au fond, quelle est la dynamique qui lie tout le monde dans ce drame et comment est-ce qu'on peut essayer d'aider les uns et les autres. Si on y va comme ça, de but en blanc, sans comprendre, on va à l'échec. Il faut prendre son temps, essayer de comprendre qui fait quoi eh bien, dans cette relation très complexe. Et c'est là qu'on peut arriver à aider les gens à lutter contre la culpabilité, faire le deuil du soignant idéal, hein, qui est quelque chose qu'on rencontre aussi souvent, et puis essayer d'apprendre à s'autonomiser parce que nos aidants, après quelques années, de pratique loyale finit par être dépendant de la dépendance. Et ils ne savent plus faire autre chose. Quand on leur dit, mais bon, prenez un peu de temps, allez vous reposer, on sent qu'ils sont un peu désemparés. Et quand on leur dit, mais bon, là vous avez du temps, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ne savent plus. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont tellement été habitués à être au service de l'autre que quand ils sont avec un peu de temps, ils ne savent plus quoi faire. Voilà. Donc il faut évidemment se faire aider, ça c'est tout à fait clair et c'est vraiment le but. Et comment on se fait aider? Eh bien, on a de nombreux dispositifs, vous trouverez ça partout. Hein. Il y a des services de maintien à domicile, des structures de répit qui se mettent en place, des choses assez sophistiquées, ça existe. Il y a des services qui sont là pour vous aider, aussi bien dans le milieu associatif, France Alzheimer, très bien, on fait ça très bien, mais aussi dans les mairies, vous avez les CLIC, vous avez les MAYA, toutes sortes de structures qui sont là pour aider les aidants à trouver des aides qui existent aujourd'hui, qui se développent et qui sont parfois extrêmement utiles.
Et qui peuvent faire du bien aussi à la personne Alzheimer, qui va pouvoir aussi reprendre son souffle.
Absolument, les accueils de jour, par exemple, ça fonctionne pour tout le monde. Et puis enfin, il ne faut pas renoncer à suivre des formations destinées aux aidants, où non seulement on vous apprend comment gérer ces patients très particuliers, on vous apprend vraiment leur langage, à rentrer dans leur univers, à trouver les bonnes attitudes, ce n'est pas toujours évident. Et puis on est surtout entre soi, avec des gens qui se parlent, qui vivent les mêmes choses, et c'est souvent un petit peu rassurant. Et je terminerai sur cette phrase, vous savez, je ne sais plus de qui disait « Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Voilà. Merci de votre attention.